Chapitre 72. Chaudement vêtu, Charcot était appuyé contre la rambarde du balcon de leur chambre d'hôtel, les yeux posés sur la surface d'un petit lac. Plus loin, d'autres ellipses bleutées étincelaient sous le soleil, incrustées dans la verdure comme autant de saphirs à la pureté rare. Il existait encore des merveilles sur lesquelles l'homme n'avait pas pris le contrôle. Lucie ouvrit la porte-fenêtre et vint enlacer cet homme qu'elle aimait, passant doucement ses bras autour de sa taille. Sa chapka fourrée s'inclina sur son crâne, dévoilant la couronne de pansements autour de son front. Cette enquête avait laissé des traces physiques, mais surtout psychiques. Elle remarqua que Charcot manipulait inconsciemment son téléphone portable dans sa main gantée. « Les bagages sont faits. Le taxi arrive dans 10 minutes, » fit-elle. « Je sais que c'est difficile, mais il va falloir y aller. » « On se fait éjecter comme des malpropres de l'enquête. On nous force à rentrer en France. » « Ils considèrent que c'est terminé pour nous, maintenant que nos suspects sont entre leurs mains. Nous avons découvert le centre et tout ce que nous sommes venus chercher. Tout sauf le manuscrit. Et les véritables enjeux de cette cryogénisation. Je ne vais pas lâcher comme ça, je te le garantis. Ils disent que Gribodova s'est suicidé. Mais l'arrivée des services secrets, Lucie, tu imagines bien que ça cache quelque chose. » Il finit par rentrer dans la chambre et referma la porte-fenêtre derrière lui. Lucie fixa son téléphone portable. Elle est attachée à l'ambassade là-dedans. Il ne peut pas nous aider à y voir un peu plus clair ? Charcot poussa un soupir. Il m'a glissé quelques informations avant que, mystérieusement, lui aussi devienne injoignable. Apparemment, le cœur de Dassonville est reparti. Ils vont le transférer dans une salle de réveil, puis l'interrogeront. Nous n'avions pas vu la moitié de ce centre secret de cryogénisation. Il s'étend sur 2 niveaux. Il y avait, paraît-il, une autre salle avec des cerveaux congelés dans des cuves. Neuroconservation, c'est le terme. Apparemment, Schaeffer développait aussi des recherches sur la cryogénisation de cerveaux sans l'enveloppe corporelle. Mais pourquoi ? J'en sais rien, Lucie. Mais imagine des cerveaux brillants qu'on pourrait par exemple greffer sur des corps neufs, en bonne santé, 20, 30 ans après leur congélation. Et je n'arrête pas de penser à cette conquête spatiale. La colonisation future des planètes. Des cerveaux, ça prend tellement moins de place que des corps humains dans une navette. Ça me fait penser à... aux meilleures graines qu'on plante dans les champs pour une nouvelle culture. Une espèce de sélection. Tout ça dépasse l'entendement. Il y eut un long silence que Lucie finit par rompre. Alors ça a fonctionné avec Dassonville. Schaeffer maîtrisait bel et bien le processus complet de veille organique. C'est tellement dingue. D'après les médecins qui travaillaient pour lui, Schaeffer n'en était encore qu'à un stade expérimental. Il restait des détails à régler concernant la cryogénisation, mais notre enquête l'a forcé à accélérer les choses. À tester sur lui-même, à essayer de disparaître définitivement de notre monde, pour renaître dans un autre ou ailleurs des années et des années plus tard. Et donc, il devait s'irradier fortement pour éviter les cristaux ? Inoculer le mal dans leur propre organisme pour que le procédé fonctionne ? Oui. Mais contrairement aux enfants de Tchernobyl qui vivent au quotidien avec la radioactivité et voient leurs organes et leurs cellules détruits à petit feu, l'irradiation au césium-137 de Schaeffer ou d'Assonville n'est que temporaire. Le radionucléide finira par disparaître presque totalement au bout de quelques mois, naturellement purgé par leur métabolisme et un environnement sain. Les séquelles seront minimes. Charcot lui tendit une feuille pliée qu'il sortit de sa poche. « Tiens, regarde ça. C'était parmi les protocoles et les quelques papiers du centre. Piqué in extremis avant que les services secrets débarquent et verrouillent tout. Il s'agit d'une copie de l'article qui aurait tout déclenché chez Schaeffer et qui lui aurait donné ses idées démentes de fondation et de centre de cryogénie. Il s'agissait d'un article du New York Times, en anglais, datant de 1988. Lucie traduisit à voix haute la partie stabilotée. Josh Donaldson, un riche homme d'affaires californien atteint d'une tumeur au cerveau, a demandé à la Cour suprême la permission d'être anesthésié et congelé avant sa mort. Il réclamait un « droit constitutionnel à la congélation pré-mortem ». Les médecins donnaient à Donaldson 2 ans à vivre. Ce dernier estimait que s'il attendait jusqu'à cette limite, la tumeur allait détruire les neurones renfermant son identité et ses souvenirs. En résumé, le congelé une fois mort serait devenu inutile. Mais la Cour a refusé. Donaldson est allé en appel et a perdu, le tribunal indiquant que toute personne qui l'aiderait à se faire congeler serait accusée de meurtre. Son immense fortune ne put le sauver et il mourut l'année d'après. Elle releva des yeux tristes. « La cryogénisation représente quelque part l'accès à l'immortalité ou à la guérison. ni le pouvoir ni l'argent n'ont la capacité de repousser la mort ou la maladie. Schaeffer, lui, le pouvait. De quoi se prendre pour Dieu ? Tom Buffett, l'un des donateurs de la Fondation, est atteint d'un cancer incurable. Dans moins de 6 mois, sans la cryogénie, il sera mort, parce que la médecine d'aujourd'hui ne peut rien pour lui. Dans son bain d'azote, il attendait que la science progresse et que sa maladie puisse être un jour guérie. Lucie lui rendit la photocopie. « Je ne lâcherai pas l'affaire, Lucie, que ce soit ici ou en France. Ils disent que la ministre s'est suicidée, mais je crois qu'elle s'est fait assassiner, pour éviter de parler. J'ai la certitude que les très hautes sphères sont impliquées. Les procédures d'extradition de Schaeffer et de Dassonville vont sans doute prendre du temps, mais un jour, ils seront entre nos mains. » Lucie tira sa valise jusqu'à la porte d'entrée. Il était temps d'y aller. Les deux flics montèrent dans le taxi, mangèrent un morceau à l'aéroport, puis embarquèrent dans un petit bimoteur 2 heures plus tard. Ils s'installèrent au fond de l'appareil, bien au chaud et un peu à l'abri du fracas des hélices. Le retour vers la France allait prendre 7 heures au total. Après une escale à Moscou, leur Boeing atterrirait à Charles de Gaulle à 16h50, ce 26 décembre 2011. « Je ne t'ai même pas demandé comment s'était passé ton coup de fil avec ta mère, » dit Charcot en souriant enfin. « Elle était contente de m'entendre. Je ne l'ai pas beaucoup appelée ces derniers temps. Et pour la grossesse ? Je ne lui ai rien dit pour le moment. Je préfère lui annoncer les yeux dans les yeux, quand j'aurai en main le cliché de la première échographie. Je veux être sûr, tu comprends ?» Elle fixa longuement le paysage qui se déployait à perte de vue à travers le hublot, l'air soucieux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» fit Charcot. Tu n'es pas heureuse. Le problème, c'est qu'on revient en France. Et en France, il y a celui qui s'acharne sur toi. Comment on va faire? On ne peut pas se cacher à l'hôtel indéfiniment en attendant que les équipes le coincent. Elle avait à présent des trémolos dans la voix. Ce tueur doit bien avoir une faille, un point faible qu'on pourrait exploiter. Je n'arriverai pas à vivre comme ça. Me dire qu'il peut nous arriver malheur n'importe quand. Elle lui serra la main affectueusement. Ça me fait tellement peur. Charcot essaya de la rassurer. « Ça va aller, d'accord ? Deux hommes de Basquez vont encore assurer la surveillance devant l'immeuble quelques jours. Quant à nous deux, on peut s'installer ailleurs en attendant. L'hôtel ou un autre appartement, le temps de boucler cette enquête. Ensuite, direction la Martinique ou la Guadeloupe, le temps qu'il faudra. Piscine, plage, soleil. Qu'est-ce que t'en penses ?» Lucie s'efforça de sourire. « J'en pense que t'as raison, mais je préférerais la Réunion. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. » « Va pour la Réunion. Ce sera ton cadeau de Noël. » Lucie fronça les sourcils. « Mon cadeau de Noël ? Tu veux dire que... » Franck l'embrassa sur la bouche et lui caressa le menton. « Si. J'ai un petit truc pour toi à l'appart, mais ce n'est pas grand-chose. » Le voyage suivit son cours. Sur les 4 heures de vol entre Moscou et Paris, les deux policiers somnolèrent sans vraiment plonger dans le sommeil, incapables de s'abandonner complètement. Ils espéraient que Bélanger et leur hiérarchie allaient se battre pour éviter que l'enquête ne file entre les mains des Russes. Dès qu'ils fermaient les yeux, Charcot voyait distinctement chaque visage d'enfant, flottant dans l'azote liquide comme des masques abominables. Tout contre lui, il sentit que Lucie tremblait un peu. À quoi pensait-elle ? Au tueur à l'affût, quelque part dans la capitale ? Tout doucement, il posa sa tête contre l'épaule de sa compagne, puis sa main sur sa poitrine. Il sentit les battements de son cœur, et sa gorge se noua. Leur bonheur était là, à portée de main. Et la vengeance aveugle qu'il comptait exécuter avait le pouvoir de tout détruire. Et s'il foirait, s'il se faisait prendre, avait-il le droit de détruire la vie de Lucie et celle de son enfant, de leur enfant ? Charcot se crispa. Il ne savait plus quoi faire et doutait maintenant plus que jamais. Gloria a été pénétrée sexuellement avec une main gantée. Elle a été torturée, tabassée avec une barre de fer. Il faut tuer le responsable. Pas de tribunal pour une ordure pareille. Fais-le en mémoire de Gloria. Il serra les dents. Cette voix semblait plus forte que tout et le torturait de l'intérieur. Tu me fais mal, Franck. Le commissaire secoua la tête et se rendit compte que ses doigts étaient crispés autour du bras de Lucie. Tout cela le rendait dingue. Il relâcha son étreinte. « Excuse-moi. Tes yeux sont injectés de sang, qu'est-ce qu'il y a ?» Charcot respira longuement, tandis que les voix continuaient à crier dans son crâne. Il finit par répondre. « Rien. Ça va. »